Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Guillaume, alors qu'on a un accord de principe sur le plafond de la dette, il y a ce projet de pipeline de gazoduc qui encore une fois est au cœur des discussions aux États-Unis.
Oui, puis Yasmine, avant d'aller au gazoduc, là, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais il y a de l'eau dans le gaz dans notre accord de principe. Là, ce matin, c'était le festival des déclarations et des conférences de presse. L'aile, appelons ça d'une certaine droite dure, est en train de déchirer ses chemises sur la place publique. Ils sont furieux. C'est peut-être, il n'y a peut-être pas assez de votes chez eux pour empêcher la conclusion de l'accord, quoique, mais McCarthy, quand il s'est fait élire, hein, ça a juste pris 14 tours de vote, une des choses qu'il a dû donner dans les concessions, c'est que pour faire sauter, c'est comme un peu si je voulais faire sauter le président de l'Assemblée nationale, un seul membre peut dire « moi je veux un vote sur sa survie ou pas ». Un seul vote pour faire sortir quelqu'un de sa chaise, ça fait pas une barrière très très élevée. Il y en a déjà un qui a dit qu'il allait faire ça. Là. Fait que revenons à notre pipeline. Parce que dans ce projet-là, quand il y a un projet de loi aux États-Unis, Yasmine, ben là, chez nous, là, c'est tout ça est contrôlé par le gouvernement. Fait que le gouvernement peut accepter ou refuser des amendements, mais c'est un processus beaucoup plus ouvert et diffus aux États-Unis. Alors, traditionnellement, il y a ce qu'on appelle l'arbre de Noël, hein, où chacun vient, là, puis accroche quelque chose. Alors, dans un projet de loi qui pourrait parler, moi, je sais pas, de l'achat d'avions militaires, bizarrement, il y a un article qui dit, et nous mettrons, 50 millions pour la construction d'un pont dans le fin fond du Nevada. Ben, il y a un élu du Nevada qui s'est dit, si vous voulez mon vote, rajoutez-moi un pont. À peu près comme ça. Alors, dans tout ça, Joe Biden a donné une énorme carotte aux Républicains. C'est l'accélération d'un projet de gazoduc très important qui va partir du bouclier de la Virginie occidentale pour se diriger vers l'est du pays pour essentiellement exporter du gaz naturel liquéfié. Les environnementalistes sont furieux, mais quelque part, je pense que c'est un bon témoignage de ce que j'appelle l'approche Biden, ou une approche qui est peut-être pas radicale sur les enjeux environnementaux, parce que Biden, il dit, je peux faire les deux. D'abord, c'est pas vrai qu'il y a assez d'énergie verte ou d'énergie alternative pour demain matin répondre à nos besoins. Ça, c'est le pays des licornes. Ça nous prend d'énergie de transition, ça prend encore du pétrole. Alors, il dit, je vais encourager l'industrie pétrolière un peu, je vais donner des millions de dollars pour cette industrie-là, mais en même temps, des milliards de dollars pour l'énergie verte. Et là, par exemple, c'est d'autoriser un projet pour aller forer en Alaska. Alors, il y en a là des projets. Alors, tout le monde s'y retrouve un peu, mais Yasmine, je me demande si ça n'aura pas des impacts sur la politique canadienne. Souvent, on parle des États-Unis,
ah oui?
Comme si on commentait Hollywood. Comment est-ce que ça pourrait nous impliquer, nous impacter, nous? D'abord, c'est cette théorie que c'est pas un ou tout l'autre. C'est pas que des énergies vertes ou que des hydrocarbures, c'est les deux. Puis habituellement, beaucoup pour le vert, un peu pour les hydrocarbures, parce que, par exemple, si vous voulez avoir l'industrie pour des batteries et autres, pourquoi est-ce qu'on investit soudainement le Canada à trouver des millions de dollars pour Volkswagen, pour GM? C'est à cause du projet d'économie verte de Joe Biden. Il met tellement d'argent sur la table aux États-Unis pour les industries vertes que si le Canada ne suit pas, tout ça va s'en aller aux États-Unis. Donc ça pourrait être l'impact numéro un. Puis on voit là, déjà le Canada a modifié ses politiques de subvention. L'impact numéro deux majeur, c'est est-ce que ça va pas favoriser le discours de Pierre Poilievre qui dit « oui, il y aura des projets d'énergie verte, mais je refuse l'équation non au pétrole, oui au vert. Je pense qu'il faut que ce soit oui de tout en plus. » Et je serais pas surpris de voir Pierre Poilievre citer Joe Biden et les États-Unis pour justifier son approche, qui ne serait une approche que où GNL, ça peut se combiner avec un investissement massif pour les énergies vertes. Ça va être intéressant de voir comment la politique canadienne va prendre ces nouvelles-là.
Mais en même temps, c'est aussi un argument pour les libéraux de Justin Trudeau qui ont annoncé un méga projet de Baie-du-Nord là, et Stephen Guilbeault qui se retrouvait à devoir annoncer des sujets d'exploitation hydro, puis finalement d'exploitation de nos ressources naturelles et qui était complètement décrié. Ils pourraient eux aussi citer Joe Biden.
Ils pourraient. Le problème, c'est que je pense, puis là, là-dessus, là, c'est mon analyse à froid. Là. Les libéraux ne s'assument pas là-dessus. Puis quand ils ont essayé de gérer le pipeline dans l'Ouest, ça a été la série de catastrophes, d'erreurs et autres. C'est une stratégie qui marche politiquement du moment que tu t'assumes, qui est d'ailleurs une loi générale. C'est pas tes positions qui te tuent, c'est les positions que tu n'es pas capable d'assumer. Puis à force de toujours être à moitié enceinte là-dessus, les libéraux finissent par mécontenter tout le monde. Alors, il faut donner le crédit ici à Joe Biden. Il se cache pas en disant que oui, il donne de l'argent à l'industrie pétrolière et l'industrie gazière pour des projets structurants. Il s'en cache pas, il l'assume, mais en même temps, il en fait infiniment plus pour le vert. Refuser le caractère binaire de ce choix-là, c'est peut-être la voie de passage du monde du réel.
Parlons de James Bond. James Bond fait des heures supplémentaires à National Geographic.
Oui, alors vous pouvez imaginer, là, si je vous décris, il y a un espion là, qui a été aperçu au large de la Suède. Vous pensez à James Bond dans son tuxedo, dans une espèce de canot motorisé, ou encore Olga, l'espionne russe qui va lui donner la réplique. Non, non, c'est une vraie nouvelle, vous allez voir ça partout. C'est un beluga qui a été aperçu au large des côtes de Suède. Puis là, c'est quoi le lien entre beluga et espion russe? C'est qu'il porte un harnais qu'on avait déjà aperçu, le même beluga avec le même harnais en 2019, où ce serait écrit Saint-Pétersbourg dessus. Il s'est pas sauvé d'un zoo. Il y a cette idée d'équiper des mammifères marins avec des équipements de surveillance au profit de l'armée. Alors oui, là, vous pouvez déjà y aller avec vos blagues. Hein, quand il se présente, hein, il dit bon nom, c'est Luga.
Luga. J'adore.
Mais c'est pas si nouveau, hein, Yasmine. Les Russes, eux, se défendent que ça existe. Les Américains, eux, l'assument complètement. La US Navy a un programme, vous pouvez le trouver sur Internet, qui est le programme destiné aux mammifères marins. Là, on entraîne pas des belugas, hein, parce qu'ils sont protégés dans le Saint-Laurent. On entraîne des dauphins et des otaries. Puis là, on les entraîne pourquoi? En gros, de la reconnaissance, de la détection. Ça peut être des plongeurs de nations étrangères, des navires, des mines. Chez les Russes, on fait ça avec des belugas, même si on ne l'admet pas. Puis là, ben, il y en a un. Est-ce qu'il s'est sauvé puis c'est un agent double? Est-ce que c'est un agent triple?
My God!
Quelles sont ses vraies intentions? On le sait
mais
pas,
là, le problème, là, Guillaume, avec cette information-là, là, j'ai comme plein de jeux de mots là, qui sont en train de se bousculer dans ma tête. Tu sais, disons, un espion québécois, c'est mon nom est Thor, Castor.
On va revenir à X13. Allez googler ça, là. D'ailleurs, nous, on a eu notre 007. C'est X13, le French Canadian Brit. Allez voir ça.
Écoute, le nombre d'animaux, là, tu sais, c'est... Honnêtement, là, je pense que je vais faire des jokes jusqu'à minuit ce soir avec ça.
Ouais, tu peux en rajouter, là, mon nom est Marin. Marin Gouin.
Ça, là, c'est particulièrement bon l'été, là, tu sais. Parlons finalement, revenons à l'Ukraine, à Russie. Il y a eu ces attaques de drones en plein Moscou. C'est à qui la faute, là? C'est-tu vraiment les Ukrainiens qui sont capables d'atteindre Moscou à son cœur sans qu'on les voit venir puis qu'on neutralise ça de loin?
En théorie, ce serait possible parce que là, c'est pas des drones, là, pour que vous voyez visuellement, là, c'est pas des drones là, qui tiennent à peu près dans la main là, que tu peux faire avec une télécommande. Là. C'est plutôt des drones qui ont l'air à des petites fusées. Alors, c'est quelque chose d'important. Évidemment, Moscou a immédiatement accusé l'Ukraine parce que ça regarde très mal en termes de perception pour Vladimir Poutine. Il y en a eu à peu près une 25, mais il y en a 3 qui ont frappé leur cible. Il y a un système anti-aérien. L'armée russe en est occupée quand même bien. Mais Kiev dit, ben, c'est pas nous. Alors, c'est qui le vrai responsable? Est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce que c'est des rebelles russes contre le régime? On en a parlé, hein. Il y en a des Russes, peut-être pas beaucoup. Il y a une espèce de petite légion qui veulent renverser le régime, Ou, et là, c'est particulièrement cynique, mais c'est déjà arrivé, est-ce que c'est une opération commandée par les services russes dans le but de mobiliser la population russe encore plus contre l'Ukraine? Ça peut avoir l'air complètement loufoque, cynique, presque dégueulasse, mais on a déjà trouvé le FBI là, ou le FSB, le FBI russe, responsable d'opérations de ce genre-là pour mobiliser l'opinion publique russe contre les Tchétchènes à l'époque. Alors, c'est une vieille recette style KGB à la sauce nouvelle. Ce n'est pas impossible. Maintenant, la grande question, c'est pas la réplique militaire à ça, c'est la réplique en termes de relations publiques. Comment est-ce qu'on va réussir ou pas du côté russe à faire avaler à la population russe? Est-ce que c'est véritablement la faute des Ukrainiens?
Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Au plaisir.